Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la précarité menstruelle intitulée Sans tabou et co-organisée par les associations étudiantes LHD Bloc et les Roadrunners de l'Université d'Artois, je vous propose un entretien avec Emeline Helluin de l'association ESPOPECA qui a une antenne dans la région. Elle intervenait pour expliquer et témoigner d'un syndrome très peu connu, le syndrome des ovaires polykystiques. Elle nous explique entre autres comment se manifeste ce syndrome, ses conséquences et donne quelques conseils pour se soigner et se faire dépister. Elle nous présente pour commencer son association.
L'association ESPOPECA, elle a été créée en novembre 2018. À la base, c'était une initiative locale, puisqu'elle a été créée par la présidente et fondatrice Kelly Lescure, qui réside en Isère. Et en fait, elle s'est rendue compte que non seulement c'était la première association française, mais c'est aussi la première association européenne pour parler du sujet du syndrome des ovaires polykystiques, qui est très peu connu. Donc, les missions de l'association, les premières missions, en fait, c'était de regrouper en fait toutes les informations vérifiées sur le syndrome des ovaires polykystiques au même endroit pour que ce soit accessible au plus grand nombre, puisque malheureusement c'est une pathologie sur laquelle il y a encore beaucoup de d'errance au niveau médical, mais aussi d'errance au niveau de l'information. Il y a beaucoup de désinformation. Donc voilà, regrouper toutes les informations vérifiées au même endroit, les mettre sur un site internet pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et par la suite, en fait, quand tu sais que ça concerne une femme sur 7, soit 2,5 millions de Françaises, forcément, il y a eu un effet boule de neige. L'association a grandi. Elle a fêté ses 3 ans. On a des actions qui prennent de plus en plus d'ampleur. On a notamment co-organisé avec l'INSERM de Lille le premier PCOS French Day le 1er septembre dernier. On a pu prendre la parole sur le sujet dans plusieurs médias, dont M6. On a eu des rendez-vous au ministère de la Santé, au cabinet de Madame Sophie Cluzel, justement, pour faire part des préoccupations des patientes dans leur vie quotidienne, puisque c'est une pathologie qui va quand même beaucoup affecter la vie quotidienne des personnes qui en sont atteintes. Donc les missions de l'association ont un petit peu changé depuis. Il y a des actions de sensibilisation, comme c'était le cas aujourd'hui à la semaine sans tabou. Il y a aussi des actions d'information, informer au plus grand nombre pour que de plus en plus de personnes connaissent cette pathologie et qu'elles soient alertées par les premiers symptômes, ou que ce soit elles-mêmes ou dans leur entourage. Il y a aussi toute une partie soutien à la recherche, en fait, puisqu'il y a des recherches qui sont conduites en France aujourd'hui sur le sujet du SOPK, à l'INSERM de Lille notamment.
Alors, on va parler de ce syndrome d'ovaire polykystique. Comment ça se manifeste? Ça apparaît, il faut expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas exactement.
Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une pathologie endocrinienne chronique et évolutive qui touche aujourd'hui à peu près une personne menstruée sur 7. C'est beaucoup, c'est énorme en fait comme chiffre. Malheureusement, c'est un chiffre qui est en extension, puisqu'il y a quelques années, on parlait encore d'une sur 10. Aujourd'hui, on est à une sur 7. Donc, comment il se manifeste? Quand on entend le nom de cette pathologie, on pourrait croire qu'il y a des kystes sur les ovaires. Or, ce n'est pas le cas. Déjà, le SOPK, ce n'est pas une maladie gynécologique, c'est une endocrinopathie, une maladie du système endocrinien. Il y a un dérèglement hormonal chronique qui va en fait affecter tous les mécanismes hormonaux du corps, dont effectivement il y a un effet sur les ovaires, sur l'ovulation. Donc au niveau des ovaires, ce qu'on retrouve, ce ne sont pas des kystes, ce sont des microkystes qui sont en fait des follicules qui n'ont pas achevé leur développement. Chaque mois, normalement, une femme va ovuler. Là, nous, à cause de notre dérèglement hormonal, l'ovulation ne va pas jusqu'au bout du processus, ne va pas jusqu'au bout du cycle. Et les follicules, au lieu d'avancer dans la trompe, comme ça devrait se faire normalement, ce qu'on a appris en SVT en troisième, chez nous, ça ne se fait pas. Le follicule va rester sur l'ovaire. Et au fur et à mesure, t'imagines, tous les mois, ça fait ça de chaque côté. Et les ovaires, en fait, vont développer cet aspect micropolykystique. Mais il n'y a pas de kyste en soi, en fait, ce sont des follicules. La maladie, elle porte très très mal son nom. C'est le nom qui lui a été, un des noms qui lui a été donné quand elle a été identifiée pour la première fois en 1935. Donc ça, les microkystes sur les ovaires, et également au niveau du dérèglement hormonal, en fait, il va y avoir plein d'effets indésirables qui vont avoir une conséquence sur la vie de la patiente tous les jours. Parmi les symptômes dont les patientes font l'expérience, il y a les signes d'hyperandrogénie, qui sont liées à un excès de testostérone. Donc là, ça va être l'hyperpilosité ou l'hirsutisme, l'acné, la chute de cheveux. Ça, c'est très, très difficile à vivre. Il y a aussi des symptômes qui sont plus métaboliques. Donc la prise de poids, la difficulté à en perdre ou parfois la perte de poids brutale. Ben, voilà, un poids qui va avoir du mal à se maintenir indépendamment de l'hygiène de vie de la patiente, malheureusement, puisque c'est hormonal. Et puis également, ben, d'autres choses comme, très sympathiques comme les douleurs pelviennes, les migraines, les douleurs neuropathiques, la fatigue chronique, la difficulté à trouver le sommeil et aussi l'infertilité, puisque c'est la première cause d'infertilité mondiale due au cycle anovulatoire que j'ai décrit juste avant. En fait, dans le cadre du SOBK, il y a une infertilité primaire ou une hypofertilité qui est liée au cycle anovulatoire. Il faut bien distinguer l'infertilité de la stérilité. D'accord. La stérilité, c'est définitif. L'infertilité, c'est réversible et heureusement pour nous.
Médicalement, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que ça se soigne en fait?
Non, alors malheureusement, ça ne se soigne pas. Il n'y a pas de traitement curatif à ce jour. Et en fait, au niveau de la prise en charge médicale, on va chercher à soulager de la patiente de ses symptômes un par un. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il n'y a pas de prise en charge globale. C'est-à-dire que si, par exemple, les signes d'hyperandrogénie que j'ai décrits plus tôt ont un impact sur ta vie, c'est-à-dire que si tu es complexé, si ça a un impact sur ta vie sociale, là, ça va être pris en charge par un traitement de ce symptôme. Okay. Pour régler un des symptômes que je n'ai pas dit auparavant aussi, c'est qu'on peut avoir des cycles qui peuvent être très, très longs, en fait. Parfois, on se retrouve dans des situations d'aménorrhée, et ça, au niveau du corps féminin, voilà, faut pas rester en aménorrhée trop longtemps. On peut proposer la pilule, en fait, qui va permettre de créer un cycle artificiel, certes, mais il y aura quand même un cycle. Donc, la pilule est souvent proposée. Je t'ai pas dit plus tôt aussi que, au niveau des symptômes métaboliques, 70% des patients doivent être un jour résistantes à l'insuline au cours de leur vie. Il y a un danger de développer un diabète de type 2 avant 40 ans. Donc là, dans ce cas-là, pour les personnes qui sont concernées, on va par exemple proposer la metformine. En fait, on traite les symptômes un par un. C'est gênant parce que ça fait... disons, du coup, les personnes vont voir plusieurs spécialistes. Le parcours du soin est un peu pénible à cause de ça. Et puis surtout, tu prends plusieurs traitements finalement. Voilà, si t'imagines, si tu as la pilule pour pouvoir avoir un cycle artificiel, la metformine, un traitement pour ton hyperandrogénie, c'est mon cas. Voilà, finalement, tu prends beaucoup de médicaments puisqu'il n'y a pas de traitement curatif, donc il n'y a pas une prise en charge qui va tout soulager. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas de traitement curatif, mais je sais que l'INSERM de Lille se penche sur le sujet actuellement.
Alors, ce syndrome, est-ce qu'il arrive généralement à la puberté, avant? Est-ce que ça arrive n'importe quand? Ou est-ce que ça s'arrête aussi? Ou on l'a toujours définitivement?
À quoi est dû le syndrome des ovaires polykystiques? Il a plusieurs origines, génétiques, épigénétiques et environnementales. En fait, il n'y a pas... effectivement, ils peuvent survenir... ça peut se réveiller, entre guillemets, à plusieurs moments de la vie d'une femme. Ça peut être à la puberté, c'est souvent le cas, après l'accouchement, où il y a des patientes, en fait, qui ignorent qu'elles ont le syndrome des ovaires polykystiques et voilà, elles arrêtent leur contraception parce qu'elles veulent avoir un enfant. Et au bout de 1 an, 2 ans, il n'y a toujours pas de grossesse. Elles sont prises en charge en centre de PMA. Et là, on leur fait le diagnostic, enfin. Mais elles avaient des symptômes qui existaient, mais ça ne les avait pas préoccupées plus que ça. Malheureusement, quand on est une femme, on nous apprend à encaisser, donc on n'est pas forcément interpellé par tout ce qui nous arrive. Donc c'est aussi pour ça, en fait, que c'est un syndrome et que ce n'est pas appelé une maladie. Et c'est ça aussi la difficulté de poser un diagnostic, parce que d'une patiente à l'autre, tu ne vas pas retrouver la même association de symptômes. Tu vois, là par exemple, je te parle, moi j'ai des symptômes d'hyperandrogénie, j'ai des douleurs qui sont de plus en plus importantes quand j'avance avec l'âge. C'est des symptômes que j'avais pas avant. Par contre, j'étais en surpoids quand j'étais plus jeune et mon poids s'est stabilisé. C'est évolutif. En fait, toute la difficulté du diagnostic est là, en fait. C'est ce qui fait aussi, voilà, que c'est un syndrome et non une maladie. Voilà. Et en plus, on observe aussi que malheureusement, chez les professionnels de santé, il y a une inégalité de connaissance de la pathologie et de discours, en fait. C'est qu'il y a des médecins qui... Alors, parfois, il y a des médecins qui peuvent avoir un discours qui est un peu plus alarmiste. Enfin, moi, je sais que quand on m'a diagnostiqué à 17 ans, on m'a dit que ça va être difficile d'avoir des enfants. C'est difficile d'entendre ça quand même à 17 ans. Hein. Mmh. Surtout qu'à 17 ans, on ne se projette pas encore là-dedans. Mais il y a aussi des médecins qui vont dire non, c'est pas grave, tenez, prenez la pilule. En fait, vraiment, une inégalité... de formation et de discours chez les professionnels de santé. Et puis, parmi les actions de l'association, il y a aussi ça, en fait, de sensibiliser un peu plus les professionnels de santé aux difficultés réellement connues par les patientes dans leur parcours de soins à la fois, puis aussi dans leur vie de tous les jours, dans leur santé, en fait. En général, les personnes sont interpellées par l'infertilité dans le cadre, quand on parle du syndrome des ovaires polykystiques. C'est un symptôme, mais en fait, il y a plein de symptômes qui ont eu un effet sur ta vie de femme avant ça, donc... Mais on ne retient que ça.
Eh ben justement, si tu avais un conseil à donner peut-être aux auditrices hein, qui écouteraient, qui ne savent pas comment ça se déclenche, les symptômes les plus, on va dire, importants pour être au courant qu'on a ce syndrome, ce sont lesquels ?
Alors oui, il y a des critères de diagnostic. Les critères de diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, ce sont un des cycles irréguliers et ou anovulatoires. Donc si vous voyez que votre cycle s'allonge régulièrement, ça dépasse les 40 jours, vos règles sont de plus en plus espacées, il faut consulter, c'est important. Voilà, c'est pas normal de rester en aménorrhée comme ça plusieurs mois. Le deuxième point, c'est la présence de signes d'hyperandrogénie clinique et ou biologique. Donc biologique, ça va être à l'analyse sanguine, et clinique, c'est sur vous, en fait. Si vous voyez que vous avez une pilosité qui se développe, que vous n'aviez pas avant, sur des zones dites masculines, et je mets ça surtout entre guillemets, c'est-à-dire sur vos épaules, sur votre menton, sur votre torse, voilà, tout ça, effectivement, à la base, normalement, les femmes ne sont pas supposées avoir des poils à cet endroit-là, donc si vous voyez que ça se développe, si, en fait, c'est aussi un sentiment général, si vous voyez que votre corps vous échappe, s'il y a une prise de poids inexpliquée, si d'un seul coup vous vous sentez fatigué, vous souffrez d'asthénie comme ça, de manière inexpliquée, ça doit vous interpeller. Et finalement, le troisième critère de diagnostic, donc ça se fait, forcément c'est le médecin qui réalise cet examen, il faut faire une échographie et regarder ce qui se passe au niveau des ovaires. Potentiellement, ils vont avoir cet aspect un petit peu d'éponge ou de gruyère, voilà cet aspect micro-polykystique, ils seront aussi plus gros en fait sur l'imagerie médicale. Ils peuvent être jusque 3 fois plus gros en fait, dû à ces follicules qui sont accumulés sur les ovaires. Et pour obtenir le diagnostic, il faut regrouper deux de ces 3 critères. En fait, ce sont les critères de Rotterdam qui ont été établis quand on a mis en lumière la pathologie pour la première fois, et ils ont été révisés en 2018 puisqu'il y a eu une amélioration de l'imagerie médicale. Donc par exemple, sur les ovaires, on est passé de la présence de 12 follicules à la présence de 20 follicules par ovaire.
Pour terminer, si on veut contacter l'association, avoir plus de renseignements, on fait comment ? Il y a une adresse internet, j'imagine, les réseaux sociaux également ?
Effectivement, donc on a un site internet www.esp-opk.org, et puis notre compte Instagram aussi, association-espopk, où en fait on regroupe pas mal d'informations qui vont vous aider dans la vie avec la pathologie, mais aussi pas mal d'informations si vous vous posez des questions, si vous avez l'impression que voilà, des symptômes, vous demandez est-ce que j'ai le SOPK ou non. Alors surtout, je précise, on ne s'auto-diagnostique pas, hein, c'est quand même une pathologie à prendre au sérieux, c'est le gynéco ou l'endocrino qui fera le diagnostic.
C'était un entretien avec Emeline Eluin de l'association ESPOPK pour évoquer le syndrome des ovaires polykystiques. Elle intervenait à l'université d'Artois dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la précarité menstruelle intitulée « Sans tabou » et co-organisée par les associations étudiantes LHD Bloc et les Roadrunners.